Les Vosges samedi, Hélène Ingret.
Bonjour auditrices et auditeurs des Vosges samedi. C'est une spéciale chasse. Alors, je me suis inspirée notamment de deux émissions faites avec des animateurs de l'association Oiseaux Nature. La première émission, nous aurons donc quelques extraits, c'était en octobre 2021. Ensuite, la seconde émission sera en septembre 2023. Par ailleurs, je pourrais vous parler de deux livres, d'une façon très succincte bien sûr, celui de Pierre Rigaud, « Pas de fusil dans la nature », qui a d'ailleurs fait la préface d'un livre tout récent, « Chasser tue aussi des humains, en finir avec les violences et les abus des chasseurs » aux éditions Le Duc Société, par le collectif « Un jour, un chasseur ». Alors, nous commencerons avec, justement, la présentation de cette émission d'octobre 2021. Bonjour auditrices et auditeurs des Vosges samedi. Samedi parce que ça me plaît, mais c'est également le samedi, la journée de diffusion de cette émission. Et ce qui me plaît, et je pense aussi ce qui vous plaît à vous, auditeurs, c'est de pouvoir accéder à la nature 12 mois sur 12, j'ai tendance à dire également 7 jours sur 7, ou au minimum un certain nombre de journées par semaine en toute quiétude, ce que ne permet pas justement la chasse actuellement. Vous êtes dans une émission Les Vosges samedi, la chasse, et en est le thème. Avec beaucoup d'informations, avec notamment un des porte-paroles et puis des illustrations musicales. Vous savez que dans cette émission Les Vosges samedi, ce sont essentiellement des interprètes, des artistes des Vosges, du Grand Est parfois, mais surtout des Vosges. Et là, exceptionnellement, et oui, je m'étais fendue d'un achat d'un CD pour notamment un titre interprété par Michel Delpech, Le chasseur, que je vous propose une autre façon de découvrir la nature et la complicité avec son chien. Le chasseur, Michel Delpech.
Il était 5 heures du matin, on avançait dans les marais, couverts de brume. J'avais mon fusil dans les mains, un passereau prenait au loin de l'altitude. Les chiens pressés marchaient devant dans les roseaux. Par-dessus l'étang, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Par-dessus les champs, montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait au bout des marécages. Avec mon fusil dans les mains, au fond de moi je me sentais un peu coupable. Alors je suis parti tout seul, j'ai emmené mon épagneul en promenade. Je regardais le bleu du ciel et j'étais bien. Par-dessus l'étang, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elle s'en allait vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait. Au bout des marécages, tous ces oiseaux qui étaient si bien là-haut dans les nuages. J'aurais bien aimé les accompagner au bout de leur voyage. Oui, tous ces oiseaux qui étaient si bien.
Les premiers écologistes de France, ce sont les chasseurs, me semble.
Qui vous a dit ça?
Ah ben c'est les médias, hein. Ils se présentent comme tels.
Les médias, j'ose pas dire que les médias se trompent à votre micro, mais quand même, quel usurpateur que ces chasseurs qui ne connaissent pas la faune sauvage et qui tirent sur les dernières espèces qui sont sur, d'oiseaux qui sont sur la liste rouge des espèces menacées. Et ils tirent comme autrefois, sans aucun respect du ce qu'on appelle le stock, le patrimoine actuel. Ils tapent dans le tas, et quand il n'y a plus rien, et bien ma foi, ils relâchent des perdrix d'élevage, ils relâchent, voilà. C'est terrible.
Et justement, ce qui est important de savoir, c'est qu'ils se présentent comme les premiers écologistes, notamment pour réguler des populations de bêtes sauvages. J'aime pas dire gibier, parce que justement, ça a à voir avec la chasse. De bêtes sauvages qui, curieusement, prolifèrent en France, alors que dans d'autres pays tout proches de chez nous, ils sont en équilibre et qu'il n'y a pas besoin de ces chasses de régulation, entre guillemets, qui sont parfois, qui tournent un peu, entre nous soit dit, parfois à la bouche.
Oui, le gros problème, c'est la dégradation des milieux naturels, évidemment, qui amène une faune qui n'est pas bien à sa place, et puis des aides par le nourrissage pour les sangliers et maintenant pour les cerfs, ce qui fait que des espèces qui sont nourries, qui sont gérées pour produire, c'est-à-dire qu'on fait des tirs sélectifs des mâles, mais pas des femelles, etc. Toutes ces espèces, comme les sangliers et les cerfs, sont élevées dans le but à en produire le plus possible. Ça donne après beaucoup de... Ça donne beaucoup de soucis à tout le monde.
Alors, j'avais tenu à faire cet entretien téléphonique, car vous avez dit lors d'une assemblée générale, donc en 2021, une information qui me semble essentielle que l'ensemble, que chaque citoyen puisse en avoir connaissance. Parce qu'il y a deux actions. Il y a une action nationale depuis un certain nombre d'années, à ma connaissance, qui est de demander qu'il y ait une loi en France, modeste loi, qui demande à ce que la chasse n'ait pas lieu le dimanche déjà.
Oui, ça peut se faire même au niveau local, hein, ça serait bien. Bon, voilà, de toute façon, il y a des conflits d'usage de plus en plus importants entre les chasseurs qui veulent écarter tout le monde de la forêt et puis les pratiquants. Et donc ça peut se faire au niveau national, bien sûr, par une décision ministérielle, mais ça peut se faire aussi dans chaque commune où les terrains communaux, propriété de la commune, sont loués aux chasseurs et il suffit d'y mettre en clause dans le cahier des charges qu'il n'y a pas de chasse un dimanche sur deux ou tous les dimanches, etc. Ça peut se faire sans problème au niveau communal.
Alors c'est ça qui est intéressant parce que depuis quelques années, effectivement, je relayais dans le cadre de cette émission consacrée à la chasse des Vosges samedi, l'initiative qui consiste à demander à ce qu'il y ait cette proposition de loi. J'ai découvert, et je pense que je ne serai pas la seule de nos auditeurs à le découvrir ainsi, qu'en fait, il y a aussi, au niveau de chaque commune, possibilité de réguler, cette fois-ci, l'action des chasseurs sur le territoire communal. Vous pouvez
pas
nous pas en parler.
Pardon, pas sur le territoire communal, sur les propriétés privées de la commune,
oui,
les forêts privées de la commune, et pas dans tous les départements. C'est dans les départements où il n'y a pas la loi Verdeil qui s'applique, c'est-à-dire dans les départements où le propriétaire d'un terrain est toujours propriétaire du droit de chasser.
D'accord, ok. Donc c'est pas obligatoirement dans tous les départements. Par exemple, au niveau du Grand Est, les Vosges font partie de...
Pour les Vosges, pas de problème. Pour la Meurthe-et-Moselle, non. Pour les départements d'Alsace, les anciens départements d'Alsace-Moselle, c'est encore une loi particulière qui s'applique. Mais dans quand même un certain nombre de départements de France, là où le propriétaire est toujours propriétaire de son droit de chasser, eh bien, il n'y a pas de problème. La mairie, qui est propriétaire d'un terrain, peut et doit, par exemple, interdire la chasse aux oiseaux, permettre tout simplement la chasse aux ongulés et pas dans toutes circonstances et pas dans toutes les conditions. Les ongulés, c'est sangliers d'abord, chevreuils et cerfs. On n'est pas des anti-chasse primaires comme voudraient nous faire passer les chasseurs. C'est pas du tout ça.
Donc, en fait, c'est au niveau des communes qui louent leur terrain à la société de chasse ou aux sociétés de chasse locales qu'il peut y avoir des dispositions restrictives dans le cadre de ce bail.
Oui, il y en a souvent, mais elles ne concernent souvent pas la faune sauvage. Et il faut demander à sa commune, demander la copie du bail de chasse. Ce bail de chasse, c'est un document administratif communicable à tout citoyen qui en fait la demande. Et là, vous apprenez des choses incroyables.
Et ce bail de chasse est renouvelé en général tous les combien de temps ?
Alors, ça ne concorde pas avec les élections municipales, mais c'est renouvelé souvent tous les 9 ans. Donc, c'est très important de savoir quelles sont les dates de signature et de renouvellement. Au moins 6 mois à l'avance, c'est mieux.
Et par ailleurs, pour des propriétaires qui ont des terrains, donc ils possèdent leur droit de chasse, entre guillemets, est-ce que vous pouvez nous parler des possibilités, justement, qu'ils rétrocèdent, entre guillemets, ce droit de chasse, par exemple, à une association telle que la vôtre, s'ils ne veulent pas se coltiner des déboires avec la société de chasse locale ?
Aucun problème, les communes peuvent le faire aussi. Tout citoyen du département des Vosges peut passer un contrat avec nous. Nous devenons locataires du droit de chasser pour 1 € symbolique, et puis avec une clause qui explique qu'on ne chassera pas et qu'on préserve la faune sauvage. Ce qui fait que s'il y a des contrevenants, ils sont face à une association et non plus au propriétaire du terrain. Ça change tout.
Tout à fait. Et surtout au niveau, par exemple, d'un citoyen lambda, comment il peut faire remonter ses souhaits, hein ? Je pense à un citoyen, ça peut être aussi bien un randonneur, ça peut être une famille qui craint maintenant de se promener dans les bois, notamment les week-ends. Comment ça se passe pour que vous puissiez exprimer, pour qu'on puisse exprimer au niveau des institutions locales, départementales, régionales, justement ce souhait? Vous pouvez nous parler des institutions qui existent où il pourrait y avoir des représentants de ces personnes?
Ouais, c'est un petit peu compliqué en 2 secondes, mais je pense que toute personne qui a envie de faire quelque chose doit se rapprocher d'une association. C'est un petit peu le cas dans tous les domaines. Si on fait quelque chose dans son coin ou si on n'a pas les bonnes demandes, si on n'a pas la clé pour ouvrir la porte, eh bien, elle ne s'ouvre pas. Donc, si chacun fait un petit quelque chose dans son coin, c'est bien, mais c'est totalement insuffisant. Les communes ont pris l'habitude, par exemple, de ne pas faire de publicité sur ces renouvellements de baux de chasse parce que, évidemment, ça amène toujours des contraintes pour le conseil municipal. Et donc, ils n'y tiennent pas.
Et puis, des justifications à donner à leurs concitoyens aussi, par ailleurs.
Bien sûr, quand on donne le droit de chasser aux citoyens de la commune avec un tarif qui est très en dessous du tarif que ça devrait être, ça veut dire qu'il y a un manque à gagner pour la commune. Ça veut dire aussi qu'on achète des voies. Ça veut dire beaucoup de choses.
Et d'une façon plus précise, au niveau des Vosges, par exemple, comme peut-être dans d'autres départements, il y a une commission en lien avec la préfecture. Vous pouvez nous en toucher 2 mots ?
La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, qui se prononce pour les dates d'ouverture de la chasse, pour les différentes espèces qui sont chassables et conditionnant leur pratique de chasse. Et cette commission-là, malheureusement, mes pauvres, elle est entièrement contrôlée par les chasseurs et piégeurs, qui sont en nombre très important et contre lesquels jamais on ne peut obtenir quoi que ce soit comme décision qui soit contraire à l'envie des chasseurs.
Alors, est-ce qu'il y a un représentant d'une association qui représente justement les autres personnes intéressées par la nature dans cette commission ? Et en combien de nombres ? Combien sont-ils ?
On va dire quoi 10%, quelque chose. C'est extrêmement faible. Et de toute façon, c'est une commission dans laquelle on y va pour s'informer, mais pas pour obtenir un quelconque vote. De toute façon, elle donne un avis simplement au préfet, mais de toute façon, la voix du citoyen n'est pas entendue dans ces commissions. En revanche, l'association Oiseaux Nature informe tout citoyen, par son site ou d'une autre façon, quand il y a à se prononcer à donner un avis sur le projet d'ouverture et de fermeture de la chasse. Ça s'appelle une consultation du public, et il faut bien sûr le faire par Internet ou par papier, mais il faut savoir à quel moment et quoi dire. Mais ça, une association informe.
Alors, deuxième, avant de nous quitter, il y a le deuxième versant de cet aspect-là. Donc, d'une part, comme vous venez de dire, l'information préalable. Et puis ensuite, alors là, on marche un peu, à mon sens, un peu sur la terre. C'est qu'en fait, les associations telles que la vôtre sont là pour faire respecter le peu de législation qui existe en faveur de la nature. Vous pouvez nous en parler un peu ?
Oh, ben c'est facile. À la dernière commission départementale de la chasse dont je vous parlais, on a évoqué le cas de l'alouette des champs, une espèce en liste rouge dont les effectifs s'effondrent de façon absolument épouvantable. La commission départementale de la chasse a pris la position du président de la Fédération des chasseurs, c'est-à-dire on ne fait rien, on chasse l'alouette pendant 3 mois sans aucune restriction, sans rien, sans voilà. Ma foi, monsieur le préfet a suivi. Et là, le tribunal administratif que Oiseau Nature a saisi a estimé en urgence que ce dossier ne tenait pas la route, que la chasse à l'alouette était totalement injustifiée actuellement et a donc suspendu la décision préfectorale en urgence. Le juge des urgences, des référés, on l'appelle le juge de l'évidence. Donc, de toute évidence, ce dossier-là ne tenait pas la route juridiquement.
Donc c'est une fois de plus une de vos, enfin je dis nombreuses victoires parce que sur les décennies précédentes il y en a d'autres aussi où grâce à votre action, eh bien la loi est tout simplement appliquée sur notre région en fait, c'est ça qui...
On l'espère, oui, en tout cas dans les Vosges, c'est le premier département qui obtient par le tribunal, le premier département de France dans lequel la chasse à l'alouette n'est pas permise grâce à la justice.
Et grâce à la justice qui a été respectée grâce à votre action,
il faut
terminer la phrase.
Hein. Oui, bien sûr, tout à fait.
Alors,
si nous n'avions pas été là, ça tirerait de partout dans les espaces agricoles où il n'y a plus de vie, quasiment. Hein.
Nous retrouverons Claude Maurice d'Oiseau Nature après une petite pause musicale et d'autres infos. Vous êtes donc dans ce spécial La chasse des Vosges samedi et j'ai entre les mains, non pas un fusil, mais le livre de Pierre Rigaud, R-I-G-A-U-X, « Pas de fusil dans la nature, les réponses aux chasseurs ». Je vais vous lire la quatrième de couverture. « Nous, les chasseurs ne sont pas, comme ils le proclament, les premiers écologistes de France. Non, la chasse ne protège pas la nature. Grâce à une approche scientifique, documentée, implacable, ce livre démontre à quel point la chasse est un désastre écologique. L'élimination des animaux dits « nuisibles », entre guillemets. Oiseau Nature, ils appellent ces animaux des indésirables, c'est-à-dire on ne les veut pas chez soi, mais on peut les transférer ailleurs. Et ils continuent à faire leur travail dans le cadre de la biodiversité. Donc il n'y a aucun animal nuisible, ce sont que des indésirables. Bon, voilà, on peut ne pas vouloir avoir de souris chez soi, eh bien on fait en sorte qu'elles ne soient pas chez soi, elles aillent ailleurs. L'élimination des animaux dits nuisibles, qui ne le sont pas, en fait, les régulations censées garantir un équilibre écologique qui cible certaines espèces en voie de disparition. Les réserves naturelles gérées par les chasseurs, le vrai scandale du sanglier. 3 petits points. Au terme d'une enquête inédite, avec des exemples de terrain dans toute la France, l'auteur livre toutes les données scientifiques, les chiffres vérifiés, et nous révèle le coût caché de la chasse en termes de perte de biodiversité, d'impact sur l'environnement et de fracture sociale. On peut aimer la nature sans tuer les animaux. Donc, en fait, Pierre Rigaud, c'est un biologiste de formation, naturaliste spécialisé dans les mammifères et les oiseaux et grand connaisseur de la faune sauvage. Ce livre... Donc, en fait, coûte une vingtaine d'euros, 22 euros. Ce que vous pouvez faire, hein, si vous ne souhaitez pas l'acheter, eh bien, faites-le acheter dans la médiathèque, la bibliothèque la plus proche de là où vous êtes. Eh bien, vous l'empruntez ensuite et puis surtout, ben, d'autres personnes peuvent en prendre connaissance. Ça permet de justement de contredire et d'apporter des autres éléments qu'hélas les grands médias ne parlent pas, sauf exception, non ? Là aussi, parce que il y a quelques émissions, disons, qui portent la voix de la planète, de la nature, que ça soit sur des sites, que ça soit sur des... Ben notamment, je pense au niveau des sites à reporters, hein, donc reporters TE2RE. Au niveau des radios, ben je pense entre autres, hein, à France Inter dans La Terre au Carré. Et il se trouvait que dans La Terre au Carré du 17 septembre 2019, eh bien Pierre Rigaud était reçu pour présenter son ouvrage, donc De pas de fusil dans la nature, donc cet ouvrage qui est fait aux éditions Humaine Science, hein, Humaine, H-U-M-E-N, Science, ben Science, voilà.
Les Vosges Samedi, Hélène Ingray.
Vous êtes dans une spéciale Vosges Samedi dont la thématique est la chasse. Alors, nous sommes là, justement, sur d'autres extraits. Celle de septembre 2023, nous en saurons davantage sur l'actualisation des législations, on va dire, concernant la chasse et surtout la préservation de la vie des civils non-chasseurs.
C'est important. Cette année, pour la première fois, après un long combat, on vient d'obtenir que la chasse aux alouettes et aux vanneaux soit interdite par la préfecture. Et c'est nouveau, ça. C'était grâce à la justice.
Ah, grâce à la justice qui a été sollicitée et qui, vous n'avez jamais lâché le morceau par rapport à l'alouette.
Ah ben évidemment, une espèce, les espèces en déclin qui sont encore chassées. Alors, cet arrêté préfectoral qui vient d'être pris il y a quelques jours, là, cet arrêté préfectoral, il a été combattu jusqu'au bout par l'ensemble de la fédération de chasse, vent debout contre une mesure comme celle-là. Non mais on rêve de voir qu'ils veulent compter. Il reste 5 couples de vanneaux sur le département des Vosges à peu près, hein. Et puis les alouettes des champs qui sont en fort déclin. Comment on peut encore soutenir l'envie de détruire ces oiseaux-là? Ça ne tient pas debout, enfin.
Oui, d'autant
que nous, on doit déployer autant d'efforts pour arriver à des résultats comme ceux-là. On sait bien que ce n'est pas obligatoirement les chasseurs qui détruisent tout. Il n'y a pas que, mais quand ils s'ajoutent encore au reste.
Ah bah c'est la goutte d'eau qui fait dépérir complètement l'espèce. Si effectivement, il y en a une ou deux qui sont tuées, alors que l'espèce en déclin complet, quoi.
Eh oui.
Alors justement, ben, après notre entretien, je passerai quand même ce fameux morceau de l'alouette interprété par les Cotribotes, parce que c'était un peu un leitmotiv. Systématiquement, je posais la question par rapport à l'alouette, parce que c'était ubuesque. L'argument du préfet, je le fais grossièrement, tu me diras si je le dis bien, c'était en gros, le préfet disait, ben non, mais de toute façon, il n'y en a quasiment pas, donc ils ne veulent pas en tuer, puisqu'il n'y en a quasiment plus. C'était en gros ça, ce qui est justifié.
Ben, en gros, c'est l'argument des chasseurs et qui est, ma foi, qui n'est pas remis en doute par la préfecture, oui, qui n'était pas. Hein. Là, maintenant, c'est changé. Mais oui, c'était ça. Bon, il faut savoir quand même que du côté des deux départements alsaciens, la chasse à l'alouette est fermée parce que ça, bon, c'est les seuls départements de France et que nous, on est le seul département de France où chasse à l'alouette Evano a été imposé par une association d'études et de préservation comme Oiseau Nature. Disons qu'à chaque fois qu'il y a un arrêté préfectoral en préparation et qui concerne l'environnement, il y a obligatoirement pendant 3 semaines une consultation du public, c'est souvent caché, hein, une consultation du public qui peut donner son avis et puis la préfecture n'en tient pas compte la plupart du temps, ou elle en tient compte, ça dépend. Là par exemple, pour la dernière consultation du public concernant la chasse des alouettes et des vanneaux, les chasseurs se sont prononcés à l'unanimité contre, mais la préfecture n'a pas tenu compte de leurs avis évidemment, parce que bon, voilà, on est en démocratie, mais voilà, il y a des avis qui comptent plus que d'autres à certains moments.
Alors justement, il y avait donc ce plan de chasse qui était sur qui était donc mis en place avec un certain nombre de préconisations.
Oui.
Est-ce que c'est, en fin de compte, la reconduction de ce qui était mis en place auparavant, à savoir le dimanche on peut chasser, etc. Ou est-ce qu'il y a quelques nouveautés dans les Vosges ? On ne sait jamais, on peut.
Oui, non, il n'y a pas de nouveauté, c'est souvent ça, hein, on fait un copier-coller, et c'est ce qu'on reprochait à la problématique. Et donc, c'est pour ça que ce copier-coller ayant été condamné, suspendu par le tribunal administratif, juste après au mois de juillet, la préfète, madame la préfète, a gentiment corrigé sa copie.
Alors, qu'est-ce qui a été obtenu, on va dire un peu à la marge, peut-être quand même, mais...
Ce que je viens de dire, c'est pas à la marge, c'est que maintenant, et ça n'était pas prévu, la chasse aux alouettes et aux vanneaux est fermée.
D'accord,
absolument fermée.
Ah ben ça, c'est quand même pas à la marge. Mais disons, je pense aussi aux périodes d'ouverture, enfin disons de...
Alors là, rien à attendre.
Alors, de toute façon, je ferai une émission spéciale consacrée à la chasse parce que j'ai déjà des enfants. Oui. Je ris parce que des fois, j'en parlerai après notre entretien par rapport à l'alcool, les chasseurs en état d'ivresse. Oui. Est-ce que le récent décret prévoit c'est effarant. Bon, mais j'en parlerai, c'est pour tenir en haleine nos auditrices et nos auditeurs.
Écoutez, pour les tenir en haleine, il y a quand même quelque chose dans le nouveau schéma de gestion cynégétique qui a été approuvé par madame la préfète. Il y a une énorme illégalité qu'on va devoir encore une fois saisir la justice. Simplement, il est prévu, les chasseurs prévoient d'agrainer les oiseaux, d'eau, pour tirer dessus. Alors, bon, évidemment, c'est en contradiction avec le code de l'environnement. Et donc, nous venons d'écrire à madame la préfète et aux chasseurs de modifier ces dispositions, de faire en sorte que tous les chasseurs du département soient prévenus. Et puis, ben, on verra, il s'agit d'une faute qui a été commise, on verra, il va falloir la réparer, cette faute.
Mmh. On va dire que c'est une secrétaire qui avait mal tapé la chose. Hein. Pour qu'elle s'en sorte.
On peut regarder ça sur le site de la Fédération des chasseurs, à la page 61, je le sais par cœur, à la page 61, on voit ces choses-là qui sont écrites en pleine conscience. Il a fallu 3 ans pour faire ce nouveau schéma cynégétique, alors qu'il était imposé par la loi de le faire en 6 mois.
Tout à fait, c'est à ça que auquel je pensais tout à l'heure justement quand... à nouveau une mobilisation pour faire appliquer ne serait-ce que la loi d'une façon un peu plus basique. Alors justement... Par rapport à la chasse, alors là, ça ne concerne que le département des Vosges, des personnes qui seraient propriétaires de parcelles peuvent avoir des dispositions intéressantes. Est-ce que tu peux nous en dire davantage par rapport à cette capacité qu'ont les propriétaires de parcelles de terrain dans les Vosges ?
C'est pas difficile. Hein. Dans le département des Vosges, comme dans un certain nombre de départements de France, le propriétaire d'un terrain, à partir du premier mètre carré, est propriétaire aussi du droit de chasser. Et il peut le confier à Oiseau Nature, par exemple, ou le garder pour lui. Il peut simplement interdire l'accès de ce terrain à toute activité de chasse. Et si vous voulez, le plus efficace, c'est quand même de se faire aider par une association, parce que c'est pas toujours facile de faire respecter ses droits.
C'est plus facile quand on voit une parcelle, donc l'interdiction de... Parce que vous apposez des panneaux tout autour
de... Là, justement, on peut le faire, mais en fait, on essaie de ne pas le faire, parce que ce n'est pas à celui qui détient le droit de chasser de dire qu'il interdit la chasse. C'est aux chasseurs de se renseigner et de savoir où ils mettent les pieds et s'ils y ont le droit de chasser. C'est tout à fait différent. Parce que les pancartes, on en met une ou deux, etc. Celui qui est passé à côté dira qu'il ne les avait pas vus ou quelqu'un les aura enlevés et personne ne les verra. Et donc après, Non, il n'est pas obligatoire de mettre une pancarte quand il y a un terrain qui n'est pas loué aux chasseurs.
Donc c'est à la société de chasse, effectivement, auquel...
De savoir, voilà.
Tout à fait. Non, c'est effectivement, mais c'est des choses essentielles comme ça qui demandent réflexion, parce que en inverse, c'est comme par exemple quand on dit poulet biologique, on devrait dire poulet traité aux hormones, la chose naturelle, ça soit, par exemple, de ne pas chasser, et ils se renseignent là où ils peuvent être.
Et mieux que ça, ils doivent en permanence, et ça c'est les présidents de sociétés de chasse qui doivent le dire à leurs adhérents, ils doivent en permanence être capables de se géolocaliser. C'est-à-dire, vous prenez par exemple, avec les nouvelles technologies, c'est quand même intéressant. On a par exemple le logiciel MapsMe qui nous localise, et donc on sait si on est à droite ou à gauche, ou sur un terrain ou sur lequel on a le droit de chasser ou pas. C'est à celui qui pratique de se renseigner, de savoir où il est, et de savoir ce qu'il est en train de faire. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre de courir après lui et lui dire « Hé, tu n'as pas le droit de venir là ».
Très, très bien. Très.
Alors, pour, là, tout ça, c'est vraiment super, parce que en cas d'accident, la responsabilité de celui qui a causé l'accident est recherchée, bien sûr, mais il y aura aussi la responsabilité de celui qui ne lui a pas donné les consignes pour lui donner les endroits où il devait pouvoir chasser. Donc le président de la société de chasse sera poursuivi également en cas d'accident.
C'est vrai qu'il y a maintenant, enfin, on veut pas, je veux dire, ça, ben parce que de toute façon, en plus, ils ont des armes, hein, c'est un peu comme une armée. Oui. Il y a toute une hiérarchie de commandement où ben, les choses doivent être dites et exigées d'être respectées entre eux, entre PAIRS, PAIRS. Hein.
Oui. Oui, bon, enfin, la première activité de l'association Oiseaux Nature, ce n'est pas du tout la lutte contre la chasse. Hein. On a tellement d'autres problématiques de disparition et d'atteinte au milieu naturel qui sont absolument terribles. Hein.
Oui, tout à fait, tout à fait. Non, je parle de cela parce que ben, la saison vient de commencer. À nous,
et oui, voilà. Boum, oui.
Mais c'est sûr que...
Soyez prudents.
Oui, la première des choses. Mais disons, par rapport, c'est surtout les actes de cruauté, ou, alors les disparitions d'espèces, comme vous avez pu obtenir par rapport à l'alouette, l'interdiction de la chasse, et puis les actes de cruauté, parce qu'il faut appeler un chat, qui sont faits à l'encontre des animaux sauvages. Il y a quand même une mobilisation importante de votre association.
Alors, ce qui est caché depuis quelques années, et qui ne l'était pas encore au moment où... Voilà. Ce qui est caché, c'est qu'il y a à peu près 30% des animaux qui sont blessés et jamais retrouvés. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ont une mâchoire fracturée, une patte, une blessure qui n'est pas létale, qui n'est pas mortelle sur le coup. L'animal s'enfuit et il va mettre 15 jours, 3 semaines avant de mourir de façon lamentable. Et ça, il n'y a aucun chasseur qui peut dire que ça ne lui est pas arrivé. Il y a à peu près 30% des tirs qui sont loupés. Voilà. Donc, à partir du moment où on pratique la chasse, on sait qu'on va et qu'on a déjà pratiqué ce genre de choses avec des blessures. Quand il y a une mâchoire fracturée, bon, la pauvre bête, elle s'en va, elle court. Hein.
Auparavant, je disais, un tir doit être fiché, c'est-à-dire que le
fichant, oui.
Fichant, hein, donc, si on loupe la bête sur laquelle on tirait, ben, au moins la balle va dans la terre à côté. Elle poursuit pas sa trajectoire pendant plusieurs kilomètres, puisque maintenant c'est éventuellement possible. Et je pensais, mais naïvement, je pensais que les chasseurs étaient formés à cela. Et quand j'ai vu les dispositions récentes qui sont prises, où en fait il faudra attendre encore je ne sais plus combien d'années pour que les chasseurs soient formés, on se dit, c'est comme si on mettait une personne en disant, ben, tu peux conduire, mais on te fera passer ton permis dans 2 ans.
Oui.
C'est, voilà. Et puis tu peux conduire en état d'ivresse puisqu'on ne va pas te contrôler pour les chasseurs. non, mais c'est vraiment... Bon, alors, avant de nous quitter, parce que vraiment, ça, c'est... tu viens de me faire penser, si des personnes ont une difficulté quelconque, du style « je suis embêtée », parce que ce n'est pas des animaux nuisibles, c'est des animaux, comme vous dites, indésirables, là où, par exemple, je suis embêtée avec telle bête...
Le sanglier, par exemple, ben oui, il y a un recours avec la Fédération de chasse.
Vous pouvez donner des tas d'informations... Non, mais ça, je pense aussi à des petites bêtes qui viennent visiter les poulaillers ou des choses comme ça, ou autre chose. Oui. Vous pouvez... Vous êtes vraiment une source de conseils, de solutions. Vous pouvez donner des tas de solutions pour permettre à la coexistence pacifique d'une façon...
Évidemment.
Voilà.
On est le premier département de France pour préserver le renard du piégeage grâce au Conseil d'État que nous avons saisi. Et il ne reste que quelques communes, enfin à peu près 160 communes, sur lesquelles le renard peut être martyrisé dans les pièges. Ailleurs, ça n'est plus possible. Et c'est grâce à Oiseau Nature, et c'est le premier département de France, encore une fois, sur ce domaine. Hein. Et donc, on a beaucoup d'attestations de non-dégâts, parce qu'il y a des attestations de dégâts qui sont faites un peu à la légère, sans contrôle, sans signature, sans rien du tout. Mais nous, on a un grand nombre d'attestations de non-dégâts, de non-atteinte aux volailles ou aux cheptels domestiques, pour des durées qui vont jusqu'à 61 ans.
Grâce 61 ans
sans attaque. Attestation sur l'honneur de personnes qui ont des voilà. Et puis grâce aux conseils qu'on leur donne, évidemment.
Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, il y a une façon de positionner un grillage ou de faire telle chose.
En fait, le principe, on n'enferme pas ses volailles. On essaie de faire en sorte que personne ne puisse rentrer pour les trouver. C'est pas la même chose.
Et voilà, une fois de plus, inverser la façon de penser. Eh bien, merci Claude. Merci à toutes les personnes qui font vivre Oiseau Nature. Au revoir.
Bonne journée, merci, au revoir.
Merci.
L'alouette sur la branche, l'alouette sur la branche, fais un petit saut. L'alouette, fais un petit saut, l'alouette, comme il faut. Au bistrot de mon village, au bistrot de mon village, je vois les canons de rouge, de rouge, je vois les canons en chantant ces quelques sons. Oh, que triste existence!
Censé ignorer la loi, hein, dit-on. Eh bien, justement, il y a un nouveau décret qui vient de sortir. Oh, ben vous savez, hein, ne pensez pas que ça va durer des heures, parce que ce décret, il est particulièrement court, voire très court. Alors, je tiens ces informations notamment d'un article qui est paru par une spécialiste du chasseur français, hein, concernant la chasse. Eh ben, c'est entre autres une source de référence disons bien connue, hein, des personnes à l'époque. C'était là un des rares endroits où on faisait dans les sites de rencontres, hein, avant l'heure. Il y avait plein d'annonces matrimoniales du chasseur français dans les années 60. Oui, il est très vieux, cette revue, qu'on peut trouver d'ailleurs en kiosque aussi. Mais là, vous pouvez y aller avec vos petits doigts et vous retrouverez ce dont je vais vous parler à présent, très rapidement, bien sûr. Et oui, parce qu'on s'attendait effectivement à un article concernant cette question de l'alcool en période de chasse, du fait d'un certain nombre d'accidents qui a lieu tous les ans, justement quand la chasse redémarre, ce qui est le cas à présent. Et donc, on s'attendait effectivement à une loi qui allait préciser justement, d'une part, à qui s'adresse cette loi quand le chasseur se trouvait en infraction. Ben, théoriquement, on pensait qu'il y aurait des précisions concernant cette réglementation de l'alcool à la chasse. Donc, un décret allait être publié. Et ben, tout le monde était dans l'attente de ce qui allait être prévu avec précision. Et que dit justement cet arrêté? Alors, c'est l'article R428-8 du Code de l'environnement. Et il est complété ainsi. L'article 1 du décret paru est court, très court, et il faudra s'en contenter. Il est précisé, alors là je lis l'article, se trouver en état d'ivresse manifeste à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction, étant porteur d'une arme à feu ou d'un arc. Voilà. Ah ben voilà, circulez, vous pouvez changer de fréquence, vous savez tout sur la question de l'alcool pour des personnes qui détiennent une arme. Alors, simplement, la journaliste précise, donc l'article R428-8 précise, lui, que est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Oh ben, vous n'allez pas vous ruiner, hein. Maximum 1 500 €. Le fait est, alors bien sûr, il y a tous les autres cas qui étaient prévus déjà sur cette amende de cinquième classe de 1 500 €. Il y avait donc 7 cas, auxquels se rajoute donc le fait d'être en état d'ivresse manifeste. Et la journaliste de continuer. Mais qu'est-ce qu'un état d'ivresse manifeste ? Un comportement qui laisse présager qu'une personne a consommé de l'alcool de manière excessive. Tout laisse donc à penser qu'aucun taux d'alcoolémie n'est fixé avec précision. L'interprétation de ce décret sera très certainement source de débat en cas de contestation. Allez! Est-ce qu'il était en ivresse manifeste, Bourvil? À vous d'apprécier l'eau ferrugineuse.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en tant que délégué de la Ligue anti-alcoolique, je vous parlerai de l'eau minérale. De l'eau ferrugineuse. L'eau ferrugineuse, comme son nom l'indique, contient du fer. Du fer. Et le dire, c'est bien, mais le fer, c'est mieux. L'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui. Et je suis fier de faire à cheval, sur le principe, une conférence contre l'alcool. L'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui. Et pourquoi y a-t-il du fer dans l'alcool? Dans l'eau ferrugineuse, hein? C'est parce que le fer a repassé. Non, pas le fer a repassé. L'eau, disais-je. C'est parce que l'eau a passé et repassé sur le fer. Et le fer a dissous. Il est dissous, le fer. Et le fer à dissous, c'est pas cher, hein? Alors, pourquoi boire cet alcool qui, plus onéreux que le ferrugineuse, ruine la santé et le portefeuille? L'alcool, non, mais ferrugineuse, oui. D'ailleurs, l'alcool brûle les tissus de l'organisme. Et vous le sentez quand vous en buvez. Ça pique. Alors que le verre solitaire... Non, pas le verre solitaire. Le fer est salutaire.
Et salutaire, le frère. D'ailleurs, ne dit-on pas une santé de fer? Un homme de fer? Un mammifère? Alors, suivez-moi. Et comme disait mon grand frère, il faut vivre, mais il faut pas s'en faire. L'alcool, non, mais l'oréfraction rameuse, oui.
Les Vosges samedi, Hélène Agret.
Bon, si vous êtes automobiliste, hein, demandez à avoir le même statut que les chasseurs. Hein. Si on vous arrête à un rond-point, vous n'avez pas causé d'accident. Hein. Vous êtes en possession d'une arme potentielle qu'est votre voiture. Vous n'avez pas de signe extérieur d'ivresse. Refusez tout test d'alcoolémie. Voilà, hein, puisque c'est en fait le sort que l'on réserve aux chasseurs. Ah, merci Bourville. On ne s'enlace pas de ce sketch de l'eau ferrugineuse. Et puis un clin d'œil, hein, si vous voulez boire de l'eau ferrugineuse, eh bien vous allez au fond de la vallée de la Moselle, à Bussan. Vous avez le kiosque Marie, à quelques centaines de mètres en dessous de la source de la Moselle. Et là, vous pouvez ramener justement de l'eau ferrugineuse. Et tout cela, c'est gratuit. J'ai entre les mains un excellent ouvrage dont je vous ai parlé au début de cette émission. « Chasser tue aussi des humains. En finir avec les violences et les abus des chasseurs. » Donc, à l'édition Le Duc Société, par le collectif « Un jour, un chasseur ». Et je vais vous lire la quatrième de couverture. Il vous en coûtera 17 euros ou il vous en coûtera à la médiathèque la plus proche. Comme je le redis, si vous ne pouvez pas ou si vous ne voulez pas l'acheter, eh bien faites-le acheter à la médiathèque, vous l'empruntez et d'autres également peuvent l'emprunter. Quatrième de couverture. Décembre 2020, Morgane Keane, 25 ans, est abattue dans son jardin par un chasseur qui l'aurait confondu avec un sanglier. De la tristesse et de la colère de quatre de ses amis d'enfance naît le collectif « Un jour, un chasseur » destiné à recueillir et à relayer les témoignages de peur, de violence et d'abus subis par les ruraux en période de chasse. Très vite, ceux-ci affluent de toute la France. Dans ce manifeste, le collectif dresse le tableau édifiant des violences physiques et psychologiques engendrées par ce loisir meurtrier, démonte les arguments pro-chasse et l'inaction de l'État et propose 5 réformes urgentes en faisant entendre la voix des habitants des campagnes. Il délivre aussi une précieuse boîte à outils pour interdire la chasse sur votre terrain. Porter plainte ou savoir comment vous engager pour faire bouger les lignes. Depuis décembre 2020, ce collectif relaye sur les réseaux sociaux les témoignages de violences et de comportements abusifs des chasseurs. Le collectif est aussi à l'origine de la pétition « Mort, abus et violences liées à la chasse ». Plus jamais ça. Saisi par le CEDA et qui propose des mesures concrètes pour faire bouger la législation de la chasse. Leur action est également relayée par les grands noms de l'écologie. Chantal Goya, un lapin.
Dans la forêt de l'automne, ce matin est arrivé une chose que personne n'aurait pu imaginer. Au bois de mortes fontaines, où vont à mortes saisons, tous les chasseurs de la plaine, c'est une révolution. Car ce matin, un lapin a tué un chasseur. Ce matin, assassin. Comme si c'était justice quand il tuait les lapins. Et puis devant la mitraille venue de tous les fourrés, abandonnant la bataille, les chasseurs se sont sauvés. Car ce matin, un lapin a tué un chasseur. Mais chantons-leur cette histoire quand les chasseurs reviendront. Et s'ils se mettent en colère, appuyez sur leurs fusils. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de s'en moquer ainsi. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui, c'était un lapin qui, ce matin.
Merci à Joris pour la mise en onde de cette mission et au groupe Chaos Tribute pour notre générique tiré des grandes gueules. À bientôt dans un prochain Les Vosges Samedis.